Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Retour à Séoul pour le nouveau roman de Jean-Marie Gustave Leclésio. Nous irons aussi à Dubaï, au Laos, au Nigeria et à Paris avec un académicien et son chat. Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, publie son nouveau roman aux éditions Stock, Bitna, sous le ciel de Séoul, est sorti cette semaine en librairie. Nous avons déambulé dans la ville coréenne pour un entretien exceptionnel avec lui. Une exclusivité radio que vous n'entendrez que dans la librairie francophone. Seconde partie de ce grand entretien-reportage aujourd'hui. C'est un académicien qui a décidé de surprendre tout le monde, ses homologues de l'académie et le public aussi, même son éditeur était berlu. Dany Laferrière, immortel et chroniqueur de luxe de la librairie francophone, publie un livre dessiné grand format, écrit à la main, décryptage en avant-première. Et puis nous irons dans trois villes folles, villes de la démesure racontées en photo par trois reportages publiés dans la revue 6 mois.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et quatre libraires nous accompagnent pour cette émission, comme toujours. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, libraire à Rosemère, dans la librairie Carcajou. Nous verrons si vous avez aimé le nouveau roman de Jean-Marie Gustave Leclésio, tout à l'heure d'ailleurs, suspense.
Un petit tellement indice. De suspense, effectivement. Ah, qui sait ? Non, moi je me dévoile pas.
Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse, vous êtes libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Tout va bien pour vous Dominique ?
Tout va très bien, merci.
Très bien. Pour la France cette semaine, c'est Mathieu Colombe de la librairie Goulard, à Aix-en-Provence, qui est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Heureux de vous retrouver.
Moi aussi.
À Bruxelles, en Belgique, c'est qui d'après vous ?
Eh bien, c'est une excellente question.
Il a pas
merci de me la poser.
Vous suivez pas les essais, c'est honteux.
Ah, mais je suis complètement les essais, mais je n'ai aucune mémoire.
Annick Dor.
Ah, mon Dieu, c'est Annick.
Mais ouais, dites bonjour à Annick.
Bonjour Annick.
Bonjour.
Comment allez-vous, Annick ?
Ça va bien.
Vous êtes libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine et vous représentez donc la Belgique. Bonjour Marie-Pierre Subtil.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de la revue 6 mois, la référence absolue selon nous en matière de photoreportage.
Merci.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet ma présentation en vidéo de cette revue sur Twitter, Facebook et YouTube. Petit coup de cœur une fois tous les 15 jours et on avait parlé d'ailleurs de 6 mois. Nous parlerons d'ailleurs des villes folles du monde avec vous. Mais on commence toujours cette émission par une anecdote étonnante que je découvre en même temps que les auditeurs. Vous avez carte blanche, Marie-Pierre. Allons-y.
Bien, merci. Non, je peux vous faire part de mon étonnement quand j'ai travaillé sur ce dossier. J'ai découvert que la tour la plus haute du monde se trouve à Dubaï. On a un reportage sur Dubaï. Elle fait 828 mètres.
Oui.
Elle devait en faire 560. Mais comme il y avait des projets concurrents, ils sont montés à 828 mètres. Moi, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Tous les pays voisins ont des nouveaux projets parce qu'il faut faire mieux. Et donc, un des derniers, c'est une tour de plus de 1000 mètres. Je ne sais pas si vous avez déjà marché un kilomètre. Celle de 800 mètres, elle fait 160 étages. Et ça veut dire que le monde, il est en plein chamboulement. Et que ces villes qui poussent comme des champignons, elles traduisent la folie de ce siècle. Voilà.
Et il y a plein de choses étonnantes dans 6 mois, comme à chaque édition d'ailleurs. On va parcourir le monde avec vous, Marie-Pierre Subtil, et dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va, ça va.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Trop longtemps.
C'est ça, trop longtemps. Bon, on nous dit tout le temps, vous invitez tout le temps Dany Laferrière, mais c'est vrai que vous êtes un peu notre chroniqueur de luxe, comme je disais.
Mais j'adore venir ici,
et
j'adore
en même temps,
et commenter à ce micro le monde.
Oui, c'est un peu ça. Alors votre nouveau livre est complètement improbable, Dany. Inattendu, c'est un livre dessiné, grand format, qui raconte votre vie à Paris au moment où vous allez entrer à l'Académie française. Vous arrivez de Montréal et vous découvrez Paris. On a l'impression que vous vivez une vie d'étudiant. Vous dites d'ailleurs, je n'ai juste besoin que d'un studio, finalement, pour écrire, lire et rêver.
Pas de téléphone, pas de télévision. Mmh. Je vais au coin acheter un avocat, une mangue. Ensuite, j'achète un pain et un peu de vin. Voilà ce qui me suffit.
Ça vous suffit. Alors vous dites au lecteur, vous le prévenez, vous dites, avant, autant vous le dire tout de suite, je suis un obsédé de la fenêtre.
Oui, tout à fait. J'aime bien regarder par la fenêtre et je vois le monde ainsi, avec une légère distance. Et c'est étrange parce que j'ai lu qu'Oscar Wilde dit qu'un gentleman ne regarde jamais par la fenêtre.
Qu'est-ce que vous regardez par la fenêtre ?
Eh bien, je regarde et je vois des choses très difficiles aussi. Juste sous ma fenêtre, il y a la soupe populaire et je vois que Paris s'appauvrit. et qu'il y a des gens, comme disait une dame, qui s'habillent comme nous et qui vont à la soupe populaire. Donc la misère a rattrapé une catégorie de gens qu'elle n'avait pas touchée auparavant. Mais je vois aussi la gare de l'Est. Il y a un peu plus loin la médiathèque et François Sagan qui vient d'être construite. Enfin, il y a tout un monde.
Obsédé par la baignoire aussi. Vous racontez votre arrivée à Montréal en 1976, car il y a des allers-retours comme ça entre le passé et le présent, et la découverte de cette baignoire rose dans votre logement. Et vous allez lire dans cette baignoire. C'est important, une baignoire, pour vous, pour pouvoir vous imprégner de littérature.
Ah oui, au point que j'ai dit une fois que je préfère une baignoire à l'océan Pacifique. C'est important, c'est intime.
Et c'est,
on
c'est
peut
plus
avoir
intime
un
que
carré
l'océan.
De soleil, un carré de ciel par la fenêtre de la baignoire. Non, mais j'aime bien être dans une baignoire. C'est un ventre maternel, il y a le liquide amniotique. Et j'y reste très longtemps, jusqu'à ce qu'il pousse des branchies.
En tout cas, c'est à l'image de ce livre, hein, qui est d'une liberté totale. C'est même, on pourrait dire, la définition de la liberté. Les lecteurs seront surpris, mais quand ils vont s'immiscer comme ça dans votre monde, tel un chat, ils vont comprendre votre univers. Ils vont apprendre beaucoup de choses sur les grands auteurs qui vous ont inspiré, les auteurs qui ont fait aussi la réputation, qui ont fait la culture de Paris.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait venir et tous ces gens vivant ou morts depuis longtemps, et sur le même pied d'ailleurs, sur le même plan, si l'on peut dire, comme dans une peinture primitive haïtienne, j'ai mis sur le même plan Villon et les rappeurs, on croise MC Solar et François Villon, et les écrivains sud-américains, Vargas Llosa, Marquez, qui ont été à Paris, presque tout le monde, et n'importe qui, Montaigne.
Et Breton aussi.
Et Breton. Mais il y en a qui sortent de Paris aussi. Paris n'a pas seulement absorbé, elle a aussi diffusé, si l'on peut dire. Et Malraux, sur la route vers Port-au-Prince, parce que mourant, il a vu des peintures de cimetières aux couleurs lumineuses.
Très impressionné par l'art haïtien, effectivement,
complètement
Malraux.
Impressionné.
Et Breton, lui, a été impressionné par autre chose. On a retrouvé son témoignage sur Haïti, car il est allé lui aussi à Haïti, André Breton. Écoutez.
Grâce à mon ami Pierre Mabille, à leur conseiller culturel à Port-au-Prince, qui était bien introduit, j'ai pu assister à un certain nombre de cérémonies vaudou et observer de très près les phénomènes de possession qui ont toujours été un des pôles d'intérêt du surréalisme. Il est remarquable que par les spécialistes haïtiens de la question, ces phénomènes soient considérés comme le produit syncrétique de certaines traditions dahoméennes et guinéennes d'une part, et d'autre part des pratiques mesmériennes qui, au XVIIIe siècle, ont pu être importées à Port-au-Prince par Martinez de Pasquali.
C'est très précis chez André Breton. Et en écoutant ce son hier, en préparant l'émission d'Annie Laferrière, j'ai eu une révélation. À propos du vaudou, je me suis rendu compte que votre livre a un côté poupée vaudou. Les personnages que vous dessinez sous des traits naïfs, minimalistes, ressemblent comme ça à ces figurines vaudou. Votre livre, c'est un peu comme une grande célébration qui s'appuie sur des rites, les vôtres. Ça dégénère parfois en transe avec des textes écrits à la main très serrés, des dessins à main levée, des pages entièrement griffonnées, presque illisibles. Bref, c'est un livre haïtien dans la pure tradition vaudou.
C'est peut-être vrai, parce que, je l'ai dit, le dernier mot de ce livre, c'est l'enfance. Peut-être que l'enfance m'est remontée comme ça au corps, je dirais pas à la mémoire, et au corps parce que j'ai beaucoup utilisé la main, j'ai écrit près de 320 pages à la main, et la main a une mémoire. La mémoire du corps est souvent la mémoire de l'enfance. Ce livre est aussi un manifeste précisément pour qu'on retourne à la main. Et la main, c'est moi qui ai chanté la Remington 22, qui ai écrit mes romans, disons, américains, si l'on peut dire, et avec cette machine à écrire que je voulais tellement parce qu'elle symbolisait pour moi l'écriture contemporaine. Et je voulais être Henry Miller, je voulais être Bukowski. Donc il me fallait une machine qui a produit, disons, la richesse nord-américaine. Et j'étais un jeune immigrant pauvre. Maintenant que je suis un vieil académicien riche, je retourne riche. À la main.
Oui, comme un enfant finalement.
Comme jusqu'à l'enfance.
Et vous dessinez un peu comme un enfant. Et vous écrivez d'ailleurs, mon mérite vient du fait que peu de gens qui dessinent aussi mal que moi ont osé faire un livre de ce genre.
C'est tout à fait l'audace et le cœur de ce livre.
L'audace et la liberté. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une petite fille de 4 ans et demi qui m'a offert un dessin la semaine dernière. Alors, pour pas l'abîmer, en fait, je l'ai placé dans votre livre, qui fait exactement la taille du format A4. Et quand j'ai rouvert le livre, il y a quelques jours, il y avait ce dessin, donc, que j'avais mis. Il s'est glissé exactement à cet emplacement-là. une page que vous avez entièrement dessinée. Et regardez, ça aussi c'est un peu vaudou, c'est que le dessin de l'enfant répond à votre dessin.
Ah mais je réclame ce dessin, c'est au, non, nom, au nom de Picasso qui voulait toute sa vie de dessiner comme un enfant.
Non mais regardez comme c'est troublant quand même.
Non mais tout à fait, d'ailleurs en voyant cela, j'y vois la coupole.
Oui c'est vrai qu'il y a la coupole.
Il y a quelque chose comme ça dans ce dessin.
C'est une maison que Gabriel a dessinée, une maison avec plein de choses autour. Et face à cette maison-là, il y a plein de petites maisons dessinées par Daniela Ferrière avec les mêmes couleurs, avec le même mouvement.
Donc, je suis tout à fait authentique et légitime. Mais je reviens à tes images de vibrations vaudouesques, oui. à cette mémoire qui revient un peu chamanique. Et c'est tout à fait vrai. Il y a bien sûr dans les dessins, je refais Van Dongen, j'ai refait Basquiat, j'ai refait Léger et tout, parce que je me prive de rien. Oui. Mais il y a quelque chose en dessous, quelque chose de souterrain que je n'ai pas contrôlé moi-même, que seul le lecteur peut voir selon son propre rythme cardiaque, et que tu as vu.
On va voir avec les lecteurs, les libraires, s'ils sont d'accord avec nous. Ils ont lu votre livre dessiné, Daniela Ferrière, les quatre ont lu. Annick Dor, en Belgique, ouvrez le bal.
Oui, alors c'est vrai qu'on est presque dans de l'art brut, hein. Le dessin donne l'impression d'un croisement entre, enfin moi ça m'a fait penser en tout cas à Dubuffet et puis à mon fils qui a 3 ans. Hein. Et donc les dessins et l'écriture manuscrite ont un côté un peu voilà artisanal, impulsif aussi et puis finalement assez esthétique. Donc moi j'étais plutôt fan. Et sinon j'ai trouvé ce portrait de Paris drôle et captivant. Il y a vraiment une foule d'anecdotes et on perçoit quand même aussi en filigrane tout l'exil, la misère, votre grand-mère aussi et puis cette langue maternelle qui n'était pas le français pour vous. Et puis donc voilà, à la fois c'est sensible et puis vraiment passionnant.
Bien, la Suisse, la France ou le Canada, on enchaîne avec qui?
Au Canada.
Jérémy Laniel.
Oui, je crois qu'il fallait vraiment Danny pour faire un tel pied de nez aux institutions avec son fameux premier livre d'académicien. On retrouve aussi l'intelligence de l'auteur, son côté à la fois ludique, érudit. De prime abord, le livre pourrait rebuter, moi le premier, mais on s'y plonge avec curiosité qui, elle, je crois, se renouvelle de page en page. Je crois pas qu'il s'agit d'un livre important dans l'œuvre de Daniela Ferrière. Reste qu'on y retrouve toute l'essence de l'auteur.
Non, pas si. Si, moi je trouve que c'est plutôt important. Mathieu Colombe, pour la France, êtes-vous d'accord?
Plus ou moins. Déjà au départ, moi, jeter des idées comme ça dans un livre écrit à la main avec des dessins en sus, si on m'en avait parlé de prime abord, j'aurais dit non, il n'y a pas moyen, moi je ne lis pas ça. Mais contre toute attente, en fait, ça marche. Ouais. On parle de choses tendres, drôles, des fois moins drôles, et il se dégage, je trouve, de l'ensemble d'une intimité dans laquelle on aime bien se lover avec Dany. Il y a aussi, son écriture fait penser à du calligramme, vu que c'est écrit à la main, ça part dans tous les sens. Ouais. On ne peut qu'y penser, Apollinaire. Et pour finir, c'est un joli ovni coloré sur lequel il serait vraiment très dommage de ne pas s'attarder.
Exactement. Dominique Bressou, en Suisse.
Oui. Eh ben justement, il faut s'attarder. Moi, pour moi, il faut vraiment avoir du temps à disposition pour ce livre. Parce qu'on devrait pouvoir en lire une dizaine de pages, reprendre une semaine après, etc. Parce que c'est très dense, c'est touffu, c'est échevelé même. Mais en fait, c'est un livre qui est plein de trésors à découvrir, mais il oblige à prendre son temps pour l'apprécier. Et il faut reconnaître que ce serait quand même dommage, dans les dessins, de louper le dessin de Malraux électrisé. Moi, j'ai adoré. Ou le coucher de soleil parisien. C'est splendide.
Alors c'est vrai qu'on y passe des heures. Hein. Si on se plonge dans ce livre, il y a énormément de choses à décrypter, notamment le chat. Pourquoi un chat, Daniela Ferrière? Vous racontez avoir croisé un chat comme ça un jour devant chez vous à Paris. C'est vrai cette histoire ou vous vouliez avoir un chat comme les grands écrivains qui vous ont précédé à Paris?
C'est vrai que c'est l'animal emblématique des écrivains. Le chat, ouais, il est silencieux, il est indépendant, c'est un félin en miniature, donc il y a un part de mystère. On n'est pas très sûr de l'avoir domestiqué. Et il est très beau, le chat, et quand il est élégant, le mien porte un nœud papillon, ouais. Et les chats sont très forts, et il y a beaucoup d'histoires autour des chats, et il y a Paul Léoto qui en a eu 300.
300, ouais.
Et c'est incroyable. Il y a Albert Cossery qui a lui-même un chat et qui n'en a pas eu. Et donc le monde peut, entre ceux qui ont des chats, et il y a aussi la phrase de Jean Genet, j'aime les chats mais je n'aime pas les gens qui aiment les chats.
Et vous n'avez pas de chat vous?
Non, je ne peux pas avoir un chat. Je serais plutôt comme Cocteau, dont le chat avait un collier où c'était écrit « Cocteau m'appartient
». On va terminer avec Léopold Sédar Senghor, qui a été le premier académicien noir. Vous êtes le deuxième, Daniela Ferrière. Et on a retrouvé un son où il explique justement ce qu'il ressent au moment où il est nommé.
Je pense qu'on a fait confiance à l'écrivain, mais aussi au professeur qui a enseigné pendant 25 ans en France, aux militants de la francophonie, mais en même temps aux militants de la négritude. ce sont les Français qui étaient les mieux placés pour comprendre le métissage culturel que j'ai essayé de réaliser. Vous savez que je suis un militant de la francophonie. Je pense qu'il nous faut tous enrichir la langue française en y faisant entrer des expressions et des mots appartenant au lexique du français des pays d'outre-mer.
Senghor, vous êtes d'accord avec lui, Dany ?
Sur certains points, je crois qu'il faut vraiment enrichir la langue française en apportant des choses nouvelles. Mais moi, j'aime bien m'enrichir de la langue française aussi, parce que il y a beaucoup de mots, d'ailleurs, quand je croise les gens dans la rue, ils me disent dites à la commission du dictionnaire où vous êtes, tel mot, je voudrais qu'il soit rentré dans le dictionnaire. Mais souvent, les gens ne vont pas chercher dans le dictionnaire. La plupart du temps, les mots y sont. Il suffit de les réveiller du sommeil des siècles. Et pour cela, il faut les employer, il faut les chercher, il faut les tirer du sommeil, tout simplement.
Merci, Daniela Ferrière. Vous allez rester avec nous. Autoportrait de Paris avec chat est paru chez Grasset. C'est sans doute le livre le plus étonnant édité chez Grasset. Il est paru en Europe cette semaine et il sortira le 9 avril chez Boréal au Canada. Vous êtes content de ce livre ?
Je suis plus que content de ce livre. Bien. Ce livre m'a fait. Je suis devenu une fiction avec le temps.
À suivre la seconde partie de notre grand entretien, grand format avec Jean-Marie Gustave Leclésio à Séoul. Entretien en totale déambulation, en exclusivité. Seconde partie d'un moment de radio rare. Vous pouvez retrouver la première partie sur notre site internet. Avant cela, voici le tout nouveau titre d'Alain Chamfort. Exister, c'est le titre. Écoutez attentivement pour vous faire une opinion. Et on vous emmène à Séoul, en Corée du Sud. Sud, tout de suite après.
Exister, ça tombe dessus comme un grain un soir d'automne. Exister n'est pas un dû, on arrive comme un intrus. La veille, il n'y avait personne. Exister n'est pas un dû, ça demande un camion grue, tellement parfois ça pèse des tonnes. Exister, quel sport de rue, sur ces pas du badminton. Exister, on est prévenu, fabrique des champions déchus, des jeunes qui ramassent leur couronne. Exister, on est prévenu, un beau jour on n'en peut plus, et malgré tout on s'y cramponne. Du hasard nu, ou celle d'un dieu qui tâtonne. Exister, c'est incongru, problème à mille inconnus, deux oxygènes et un carbone. Exister, c'est déjà vu, y en a qui se désabonnent. Exister comme on a pu, sans le moindre tumulte, sans vague. Klaxon, exister comme on a pu, puis partir comme on est venu, comme un grain, une nuit d'automne. Exister comme on a pu, sans le moindre tombeau, sans vague ni coup de klaxon. Exister comme on a pu, puis partir comme on est venu, comme un grain, une nuit d'automne.
Le Le tout nouveau titre d'Alain Chamfort, existé sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. On retourne en Corée du Sud donc avec le prix Nobel de littérature, Le Clésio, pour la sortie de son nouveau roman, Bitna, sous le ciel de Séoul.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
ICI Radio-Canada Première.
France Inter.
Voilà, Jean-Marie Gustave Le Clésio, on est dans la ville, au cœur de la ville de Séoul, ici, avec de grandes artères, beaucoup de monde dans les rues, comme c'est d'ailleurs décrit dans votre roman. Et votre personnage, Bitna, aime bien se balader dans la ville de Séoul.
Oui, c'est une ville très animée, c'est une ville qui bouge. Et un des moments que Bitna aime beaucoup, et moi j'aime ça aussi, c'est très tôt le matin. Vous sortez très tôt le matin. Et là, ce sont des vieux et des vieilles qui ramassent les cartons, qui ramassent tout ce que les étudiants et les plus jeunes ont laissé traîner dans la nuit et mettent ça sur des petits chartons. Et j'imagine vont les vendre ensuite dans des ateliers de récupération. Et donc c'est très étonnant de voir ces différentes couches de la population qui ne bougent pas au même moment, qui bougent à des moments différents.
Et tout le monde travaille, c'est vrai que tout le monde travaille. Là, on dit que c'est la ville qui ne dort pas, non pas parce que les Coréens font la fête, mais parce que soit certains vont au travail, soit certains rentrent du travail. Et comme vous le dites, il y a ces personnes qui récupèrent, qui recyclent les déchets, un peu comme au Brésil d'ailleurs, on trouve cela.
Oui, c'est une sorte d'activité permanente, comme dans toute bonne fourmilière qui se doit. Et on pourrait imaginer que dans une ville comme Séoul, un étranger ou quelqu'un qui n'appartient pas à la population locale serait mal reçu, mal regardé. Et il y a toujours quelque chose de bienveillant à Séoul. C'est une ville très, très accueillante en fin de compte.
Bruyante aussi, hein, vous l'entendez derrière nous. On va se diriger vers le métro car votre personnage qui aime se balader dans la ville prend aussi les transports en commun. Il y a une ligne aérienne de métro, comme on trouve d'ailleurs à Paris ou dans d'autres villes du monde, et c'est un espace de liberté pour elle. On va se diriger vers la station, Jean-Marie.
Oui, nous sommes à Sitsong, c'est le centre de la ville, le centre névralgique, le centre administratif. Mais c'est une ville, et j'ai voulu que Bitna la parcourt parce qu'il y a différents centres nerveux, il n'y a un seul centre, il y a des quantités de nœuds, de plexus qui se rencontrent.
Alors c'est vrai, oui, effectivement, qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs nœuds, comme vous dites, et il y a une sorte d'axe principal, c'est le fleuve Han. Alors on va y aller, on va se balader d'ailleurs là-bas, sur un bateau.
Oui.
Et pour cela, on va prendre le métro. Donc, voilà, c'est ce qu'on est en train de chercher, la station de métro dans la ville de Séoul. Je crois que c'est là, voilà, City Hall.
Vous remarquez qu'il y a une marche pour entrer dans le métro. C'est parce qu'il y a des inondations très souvent et l'eau qui irait cascader à l'intérieur du métro. Au moment de la mousson, on a de l'eau quelquefois presque jusqu'au genou.
Ah, et, dans la ville de Séoul.
Oui. Et les Coréens ont un trait que j'aime beaucoup, les Coréennes surtout, c'est que quand ça devient trop problématique, ils enlèvent leurs chaussures. C'est le meilleur moyen de remarcher pour ne pas tomber, c'est de ne pas avoir de chaussures. Oui. Donc nous allons prendre la ligne 2,
d'accord.
La ligne circulaire. C'est comme le Circle Line de Londres.
D'accord, qui fait le tour de la ville.
De Séoul. On pourrait d'ailleurs passer la journée dans le métro.
Ça vous plaît le métro, vous ?
Ah, beaucoup, oui. Ouais,
ah bon ?
Oui. J'aime beaucoup.
Mais partout dans toutes les villes du monde ou...
Absolument partout. À Paris, ouais. À Londres, à New York. À New York, j'adore le métro. Il est extrêmement primitif.
À Londres, il est très primitif aussi. Il est très bas de plafond.
Oui, il est bas, mais oui, enfin assez confortable quand même.
Ouais. Ça vous angoisse pas, ça vous oppresse pas quand il y a autant de monde comme ça?
Bon, je ne prends pas aux heures de pointe.
Ouais. Oui, d'accord.
J'essaie d'éviter. J'aurais droit au free ticket. Bah, je suis un vieux, hein. Non, parce que le métro à Séoul a cet intérêt extraordinaire, c'est qu'il est gratuit pour les anciens.
Ah bon ?
Et donc c'est un lieu de réunion des anciens. Les anciens, les vieux, vieilles, se retrouvent dans les wagons, ils discutent, ils regardent, ils cherchent s'il y a des étrangers pour aller leur parler.
Ou... Ah, c'est vrai ?
Ouais, oui, c'est comme une sorte de café ambulant pour eux.
Ah, et quand c'est rouge, c'est que ça passe, en fait.
Pardon ?
C'est pour ça que vous étiez bloqué, parce que quand c'est rouge, c'est bon.
Ah.
Vous inversez le vert.
Bon. Ah, vous avez tout compris.
C'est l'inverse.
Ah, ouais.
Voilà, le métro de Séoul. Votre personnage, Jean-Marie Gustave Leclésio, dit « La ville est si grande, on pourrait marcher un million de jours sans rencontrer deux fois la même personne, même si le proverbe dit « On se reverra un jour ou l'autre sous le ciel de Séoul ».
Oui, c'est une ville qui est très animée, en effet. Et il y a beaucoup de visages différents.
Alors, on va rentrer dans le métro, et déjà là, c'est beau, c'est grand. Il est vaste.
Oui, c'est assez propre. En fait, c'est pourquoi j'aime beaucoup circuler en métro à Séoul.
Très propre, très grand, avec des wagons qui ne sont pas séparés par des portes. Et il y a juste des portes coulissantes automatiques qui permettent de passer d'un wagon à l'autre. Un sol vert, des poignées vertes très vives, vert herbe. On est encore dans la nature, même dans le métro à Séoul.
C'est une capsule spatiale. En fait. Nous sommes des visiteurs d'un autre monde. Nous avons besoin de décrire le métro. Vous pouvez voir, à chaque extrémité, il y a des vieux.
Et au bout, là-bas.
La journée à tourner dans la Circle Line, de faire le tour du Séoul. Et en regardant les curiosités que nous sommes, par exemple.
Avec un micro, c'est sûr qu'on est un peu repéré. Mais alors, c'est très agréable comme métro. C'est vrai qu'on a envie d'y rester, donc je comprends les vieux, comme vous dites, qui restent toute la journée, parce que c'est plutôt confortable. Elle regarde les passants, Bitna. À chaque fois, elle est là, comme ça, dans la ville. Elle regarde les citoyens de la ville, elle prend des notes et elle leur invente des histoires. C'est ce que vous faites, vous aussi, un peu?
Ah oui, tout à fait. Bitna, c'est moi, donc il n'y a aucun doute que je fais cela. J'ai toujours un carnet, un crayon, pour essayer d'échanger mes pensées avec celles du voisin ou de la voisine. Et donc, métro est un lieu d'échange. On explore les réservoirs humains. On dit qu'aux États-Unis, dans le métro, une personne sur trois qu'on regarde a tué quelqu'un dans l'heure qui a précédé. Mais à Séoul...
Dans l'heure qui a précédé, à Séoul, non.
Je ne crois pas que ce soit le cas à Séoul. Chaque personne transporte un secret.
Vous avez des secrets inavouables, vous ?
Secrets inavouables pour moi ?
Ouais.
Le fait que je sois un écrivain, déjà, c'est un secret inavouable.
C'est pas un secret, tout le monde le sait.
Non, ici à Séoul,
oui.
Les gens ne se doutent pas que je suis un prédateur, comme vous d'ailleurs. Mais vous le montrez, vous avez un micro.
Oui, c'est ça, oui.
Vous annoncez la couleur.
Moi, j'avance à visage découvert.
Oui, ça c'est vrai, je dois reconnaître cette qualité chez vous.
C'est gentil, mais vous n'avez tué personne en tout cas. Si, dans vos romans, vous avez tué un peu. Non, même pas.
L'heure
qui précède, non. Bon, on va arriver bientôt, on va arriver sur le fleuve Han et on va prendre ce bateau qui va nous permettre de voir la ville avec un autre regard et poursuivre cet entretien.
Nous allons passer au-dessus du fleuve, nous allons le voir. C'est le meilleur point de vue sur le fleuve, c'est depuis la fenêtre du métro.
Ah voilà, on voit la rivière là.
Donc par ici la mer et par là la montagne.
Exactement, avec les ponts aussi hein, qui enjambent comme ça les deux rives. On a une dame qui enlève les petites affiches qui sont collées dans le métro et qui fait le ménage en fait, alors que le métro circule. Un métro très très propre effectivement. Voilà, on va descendre ici. Et nous allons laisser la place à nos libraires, le temps de ce déplacement. De Séoul, on part dans nos studios de Montréal. Jérémy Laniel, quel est votre avis sur ce livre, vous ?
Ben, il est rare, Emmanuel, que l'on puisse payer un guide de la trempe de Le Clésio. Et pourtant, c'est ce que nous offre ce Bitna, cette Bitna, devrais-je dire. C'est loin d'une promenade touristique. Hein, l'auteur ici propose une vision culturelle, une lettre d'amour à une ville dont j'ignorais absolument tout. Le Clésio parvient ici à nous la présenter à échelle humaine et c'est vraiment très réussi.
Bien. En Suisse, Dominique Bressou, comment s'est passée votre lecture?
Ah ben là, moi j'ai beaucoup aimé en fait la vie propre des petits quartiers qui constituent toutes les grandes villes du monde. C'est assez peu décrit, mais en fait l'essentiel est là. Il y a des impressions, des évocations, et ça laisse toute la place à l'imaginaire. Et on se retrouve finalement très vite comme Salomé dans l'impossibilité de voir ce qui l'entoure. Salomé, c'est donc celle à qui on raconte les histoires, obligée d'écouter et surtout d'attendre la suite des histoires merveilleuses de Pitna. Bon, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver.
Voilà, on est au bord du fleuve Han, ici à Séoul, Jean-Marie Gustave Le Clésio, au milieu des oiseaux aussi, au bord de l'eau, hein, on pourrait toucher l'eau là quasiment. Et ce fleuve, c'est l'axe central de cette déambulation dans la ville, c'est aussi l'axe central pour les séoulites.
Oui, c'est une artère de vide et de vie animale aussi. Ce qui est étonnant dans ce fleuve, c'est qu'il est très très vaste près de l'embouchure, et ça fait de Séoul vraiment une ville maritime. D'ailleurs, les oiseaux que nous voyons là sont presque tous des oiseaux de mer. On voit des goélands, des mouettes et des plongeons ou des cormorans. Et un peu plus loin, je crois que le bateau tout à l'heure va nous y emmener, il y a une île qui s'appelle Pomson, c'est-à-dire l'île des châtaignes, l'île des marrons. Parler aux Corses, l'île des châtaignes.
Alors vous parlez effectivement de cette île dans le roman. Il y a surtout les oiseaux, la symbolique des oiseaux qui s'affranchissent des frontières. Et les oiseaux sont vraiment en filigrane, comme un fil rouge dans votre roman Bitna sous le ciel de Séoul. Et ça résonne évidemment particulièrement ici, avec la Corée du Nord, la Corée du Sud. Il y a cette histoire avec Monsieur Cho qui entraîne finalement ces oiseaux à passer la frontière. Il est arrivé en Corée du Sud, il vient de Corée du Nord, et la seule façon pour lui de passer la frontière, c'est finalement à travers ces oiseaux.
Oui, c'est une histoire vraie. J'ai lu ça dans la presse. J'ai même vu un petit reportage sur ce monsieur Churro qui est un passionné de pigeons voyageurs. Mais j'ai imaginé qu'il venait du Nord, il était venu du Nord quand il était enfant, porté par sa mère, et sa mère portait dans un sac en jute. Elle portait un couple de pigeons voyageurs dans l'idée peut-être d'envoyer des messages, parce qu'on n'avait pas à l'époque de télégramme ni de téléphone. Et ces pigeons se sont reproduits, ont donné toute une compagnie de pigeons que M. Cho a élevé fidèlement. Et il a cette idée que 40 ans plus tard, les descendants du couple initial se souviennent encore de l'endroit d'où ils sont venus. Et donc il va les lâcher pour qu'ils retrouvent la vallée perdue, le verger de poiriers qui représente son paradis d'enfance. Effectivement, ils les lâchent et ils partent. Et moi, j'ai imaginé qu'ils arrivaient à cet endroit.
On va laisser les oiseaux, on va prendre le bateau. On est sous un pont qui est très haut. Et sur le pont, en fait, au-dessus de nous, il y a des voitures et des trains qui passent. Vous entendez peut-être le grondement derrière. Et tous ces oiseaux qui sont agglutinés comme ça autour d'un pilier de ce pont au milieu du fleuve. On va se diriger vers le bateau, Jean-Marie.
Merci, oui.
Allons-y. Alors, on est arrivé sur le bateau qui commence à partir. Sur ce fleuve Han, ici à Séoul, en Corée du Sud, avec Jean-Marie Gustave Le Clésio. Et donc les deux rives, c'est majestueux, c'est magnifique, parce qu'on est vraiment plongé au cœur de la ville quand on est sur ce bateau.
Vous en parlez bien, oui, c'est un fleuve merveilleux. Je trouve, la rivière Han est un endroit magique, non seulement parce qu'il y a des couleurs et parce que c'est habité par les oiseaux, mais parce qu'on a l'impression que c'est la séparation de deux mondes. On a l'impression qu'on est ici à la frontière de l'Asie du Nord et de l'Asie du Sud.
Dans Bitna, sous le ciel de Séoul, Bitna va raconter des histoires à une jeune femme très malade. Cette jeune femme, Salomé, s'éteint peu à peu, victime des dégénérescences de ses fonctions vitales. Et grâce à ses contes, teintés des traditions et de l'histoire coréenne, elle va pouvoir s'apaiser, faire aussi une sorte de bilan de son existence. Raconter des histoires, c'est plus que distraire, c'est transmettre, Jean-Marie Gustave.
La plupart des contes ont été destinés à réveiller des personnes Il y a un recueil en Inde, enfin au Cachemire, qui a été composé pour une reine, la reine du Cachemire, qui était neurasthénique. Donc son mari avait convié des conteurs à lui raconter des histoires pour la réveiller. Et je pense que c'est dans cet esprit que j'ai voulu que Bitna raconte ses histoires. Elle apporte l'air du large, la rumeur de la vie, les bruits de la ville, et aussi le monde animal, tout ce qui fait défaut à une personne enfermée dans son corps et dans une chambre, et qui s'éteint en effet peu à peu. Mais je voulais que ce soit une histoire optimiste, pas que ce soit une histoire cruelle. Il reste à Bitna l'impression qu'elle est venue sur la Terre pour ça, que c'était son rôle, et qu'elle s'en souviendra toute sa vie.
On va passer sous un pont, là, Jean-Marie Gustave Leclésio, sur ce fleuve Han à Séoul, avec l'air du large, prendre le large, effectivement, c'est ce que l'on fait là en ce moment même sur ce bateau. Et ce fleuve très paisible, hein, il est presque à l'image finalement des rues de la ville, parce que même l'eau est propre ici. Il y a ce chat Miss Kitty qui veille dans un quartier de Séoul, une chatte que vous décrivez comme une déesse, un fantôme ou un ange. Il y a ces forces invisibles, ces dragons qui pourraient être sur le pont là d'ailleurs sous lequel on passe en ce moment. Les dragons aussi, c'est très mystique finalement. Vous croyez aux forces de l'invisible, vous ?
Je suis assez séduit par la philosophie bouddhiste et par le taoïsme. Ce sont des philosophies qui nous disent que la vie est un cercle, que la vie qui nous anime, c'est la même que celle qui anime les arbres, qui anime les animaux. Et qu'on passe de l'un à l'autre, la vie passe de l'un à l'autre. Et j'ai voulu raconter cette histoire de cette chatte parce qu'elle apparaît un jour mystérieusement dans un salon de coiffure. Elle sert de transport à des petits messages entre des gens qui vivent dans un immeuble et ne se rencontrent jamais. Et puis un jour, elle apporte un message d'une demande de secours. Et tout le salon de coiffure se déplace pour venir en aide à une femme qui a été abandonnée par son mari et qui est en train de sombrer dans le désespoir. Et lorsqu'on sauve la vie de cette personne, la chatte s'en va parce que c'était sa mission.
Votre roman est ponctué comme cela de contes. Les contes que raconte Bitna Salomé, c'est une très belle histoire d'amitié qui nous met vraiment en immersion justement dans la ville de Séoul et surtout dans la tradition orale et littéraire qui est très présente en Asie. Cette tradition orale, c'est une façon de communiquer en fin de compte.
Oui, parce que si on y pense, le roman, c'est l'héritage des contes de ma grand-mère. C'est un monde imaginaire mais qui se sert de petits éléments puisés au hasard de la vie. J'ai voulu que ce soit ce ton-là, que ce soit le ton du conte et pas celui du roman. Et j'ai toujours un peu de mal à utiliser le mot « jeu ». C'est quelque chose que, c'est un mot qui est dévoyé. Il faudrait, non pas le supprimer, mais l'économiser. Et pas trop utiliser ce mot.
C'est compliqué. Pour la pudeur, c'est compliqué de dire « jeu ».
C'est compliqué et puis c'est insuffisant. Il faut que, à travers les histoires qu'on raconte, et dont celles que raconte Bitna, il faut qu'on puisse sentir qu'on appartient à la même famille et que ces histoires nous sont destinées à nous aussi, et qu'elles peuvent nous servir, même si nous ne sommes pas dans la dépression. Nous avons besoin d'histoires.
Il y a une accoutumance d'ailleurs à écouter des histoires. Le raconteur a un pouvoir, Bitna, elle a un pouvoir sur Salomé, elle le dit même, elle en est consciente, il y a une emprise même.
Oui, je voulais que ce ne soit pas seulement une histoire d'amitié, mais un peu aussi une lutte. Les sentiments ne sont pas toujours de bons sentiments. Il y a des sentiments cruels, des sentiments d'envie, des besoins de destruction, peut-être même quelquefois des souhaits de mort. Quand nous étions tout à l'heure dans le métro, nous en parlions. Nous passons à côté de gens qui peut-être ont souhaité la mort de quelqu'un dans l'heure qui a précédé.
Vous allez finir en auteur de polar, Jean-Marie.
Écoutez, nous vivons dans un monde étrange.
Finalement un peu, oui.
Nous avons visité hier un temple et nous apprenons aujourd'hui qu'un fait divers extrêmement violent s'est produit dans ce temple et que depuis, les moines prient devant la photo des victimes d'une famille qui a été sacrifiée pour que leurs âmes n'errent plus. Une certaine façon de continuer à alimenter le monde des contes.
Voilà, on va continuer à alimenter le monde des contes, le monde du réel et de l'irréel avec vous. Merci beaucoup Jean-Marie Gustave Leclésio.
Merci à vous Emmanuel Carrade, merci.
ravi de vous avoir retrouvé ici à Séoul. À chaque fois, on se retrouve dans des endroits improbables. C'est un peu notre marque de fabrique tous les deux depuis 10 ans presque maintenant. Avec ce pont sous lequel on passe, c'est une ville majestueuse. On a face à nous toute la ville de Séoul et tous ces ponts qui enjambent très fréquemment les deux rives de la ville. Et quand on arrive en avion, vous le savez, c'est ce qui vous trouble d'ailleurs à chaque fois. On voit des ponts aussi parce qu'il y a des ponts entre les îles et le continent. Voilà.
Oui, grâce à vous, j'ai appris aussi des choses sur Séoul que je connaissais pas. Enfin, j'ai découvert, nous avons découvert ensemble. Et je voudrais dire seulement, comme Henri Michaud le disait à propos de Gongotena, un bon compagnon de route.
Merci, ça me touche beaucoup. C'est beaucoup d'émotion, Jean-Marie. Merci beaucoup. Bitna, sous le ciel de Séoul, est un roman magnifique, apaisant, qui vous fera réfléchir, qui vous emmènera en voyage. Il faut absolument lire ce livre, qui restera, j'en suis certain, j'en fais le pari aujourd'hui, comme un classique. Et quand je vous dis de lire un livre, c'est pas au hasard, vous le savez. Merci, Jean-Marie Gustave. Merci.
À bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Et à suivre, des histoires folles sur la démesure de certaines villes du monde avec la revue 6 mois. Avant cela, on écoute le groupe Zebda dans la librairie et c'est le tube francophone de la semaine.
On vivait il y a pas si longtemps comme des Indiens dans des cases que nos parents construisent de leurs mains. Et si les robinets d'eau n'étaient pas trop loin, on pouvait dire que rien n'était à portée de main. Même sous un toit, tu dormais à la belle étoile. T'avais froid mais main avec une sociale. Si t'avais pas de chaussettes qui te servaient de gars, tu pouvais toujours danser et chanter des slogans. On vivait il y a pas si longtemps dans des baraques en bois. Je crois bien que c'était pas ma cabane au Canada. C'était un temps et l'eau, la mairie la faisait gratis. Pour les toilettes, on allait derrière un champ de maïs. En échange, on avait intérêt à être aimable.
Zebda, du soleil et la toque, titre que vous aurez reconnu dans la librairie francophone. Daniela Ferrière, un petit mot, vous m'avez imposé une petite minute pour parler de ce qu'on a entendu avec Jean-Marie Gustave Leclésieux.
Ce reportage devrait être primé et pour diverses raisons. D'abord parce qu'il est magnifique, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on a un prix Nobel qui nous fait visiter une ville, mais par sa forme aussi. C'est une forme gigogne. Il y a là quelqu'un, un conteur, qui est le narrateur, l'auteur même, Emmanuel Kérad, de manière contemporaine, qui nous fait visiter la ville et raconter, c'est-à-dire en passant par le métro, par sous les ponts, en déambulant dans la ville, en voyant les retraités, on entend chaque cri d'oiseau, chaque souffle, toute la rumeur de la ville se trouve là, et le fleuve Han, et naturellement. Et à l'intérieur de cela, il y a Jean-Marie Leclésieux, qui est lui-même un conteur aussi, et qui raconte l'histoire de Bitna, qui est une sorte de Scheherazade et qui attire, qui illumine, qui fascine. Et cette personne qu'on n'entend pas, qui est celle qui écoute les histoires et qui est au cœur de toute cette action. Et je crois que c'est un reportage, un des meilleurs que j'ai entendu à la radio, non, sur le fait littéraire. Et
je vais y aller.
Non, mais c'est vraiment magnifique parce que je peux pas supporter qu'une chose pareille soit passée et qu'on passe à un autre sujet et qui va être magnifique.
C'est ça,
d'ailleurs,
la radio.
Oui, mais il faut quand même s'arrêter de temps en temps. Ouais. Pour le dire, c'était magnifique.
Bon, merci, ça me touche beaucoup, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas comment je vais enchaîner, vous allez faire l'interview de Marie-Pierre Subtil. J'ai désannoncé Zebda du Soleil et la Toque, où je l'ai dit. Merci Dany, merci beaucoup.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Marie-Pierre Subtil, rédactrice en chef de la revue 6 mois, est avec nous donc pour le nouveau numéro de cette revue que l'on soutient dans la librairie francophone, vous le savez Marie-Pierre. Dans cette
Merci.
Édition printemps-été, il est question de trois villes folles. Vous écrivez en introduction de ces reportages photos que le nombre de citadins va doubler, voire tripler d'ici 2050, ce qui génère des mégapoles démesurées et parfois même hors de contrôle.
Ben oui, 6 mois, c'est le sous-titre, c'est le 21e siècle en images. Et le 21e siècle, c'est le siècle de l'urbanisation. Au début du 20e, il y avait un être humain sur 10 qui vivait en ville. Mmh. En 2008, on est passé à 1 sur 2. Et ça augmente à une vitesse folle. On est dans un monde où bientôt presque tout le monde sera en ville.
Ouais, c'est ça.
On a un reportage sur Lego, c'est ouais. fou. C'est complètement incroyable. Chaque année, il y aurait... Parce qu'il n'y a pas de statistiques, évidemment, dans ces pays, mais il y aurait 750 000 nouveaux habitants ouais. dans la ville. Je ne sais pas si vous imaginez.
Et il y a un bidonville qui est absolument terrifiant. Il faut savoir qu'il y a 1 milliard de personnes qui vivent dans le monde dans des bidonvilles. Là aussi, le nombre pourrait doubler en 2050. Et donc, au Nigeria, il y a l'un des plus grands du monde, Makoko, construit sur la lagune. C'est un bidonville insalubre, humide, car entouré d'eau, sans eau courante, sans égout. C'est horrible. On voit ces photos qui sont sublimes, d'ailleurs. C'est paradoxal, parce que les photos sont magnifiques. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que ça attire les touristes.
Oui, c'est fou. Les bidonvilles, on dit aussi que c'est le laboratoire du monde de demain. Alors, il y a ces touristes, ces blancs, sur un bateau, puisque le bidonville a poussé sur la lagune. Les touristes sont dans un bateau, c'est complètement incongru. On apprend aussi dans les légendes que les habitants vivent de la pêche, mais ils achètent aussi du poisson congelé qui vient d'Europe. Enfin, on a un concentré de la folie de la mondialisation d'aujourd'hui.
Il y a aussi en Haïti un bidonville qui s'appelle la Cité du Soleil d'Aniela Ferrière. C'est le plus grand bidonville de l'hémisphère nord et on dit aussi qu'après le séisme, il y a d'autres bidonvilles qui se sont construits autour.
Oui, ça c'est mégalopole de bidonville, il faut le dire aussi. Il y a un autre bidonville que j'ai décrit dans ce livre qui s'appelle Jalousie. Et pourquoi ? Parce que tout à côté, il y a un, j'allais dire, presque un bidonville de luxe, où les maisons sont des maisons de millionnaires, et ces gens qui vivent dans ce bidonville se disent jaloux. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur bidonville « Nous sommes jaloux des riches ». Jalousie.
C'est terrible. Autre ville de la démesure, à l'opposé de ces bidonvilles du monde, c'est Dubaï, que l'on retrouve dans la revue 6 mois. Les suites à 20 000 dollars, la piste de ski couverte, le bar à glaçons, moins 5 degrés alors qu'il fait 40 degrés dehors, route qui mène nulle part, construite en prévision de lotissement, des parcs d'attractions que l'on rase tous les ans pour pouvoir les renouveler. C'est du grand n'importe quoi à Dubaï, disons-le, il faut le dire à un moment donné.
Oui, alors évidemment le travail du photographe que nous publions, Nick Hans, un photographe belge extraordinaire, est un peu caricatural. Il appuie là où ça fait mal. Mais ça fait très mal. Dubaï, c'était 60 000 habitants à la fin des années 60. C'est 2,8 millions aujourd'hui. Et c'est deux mondes qui se côtoient. Les Émiratis, comme on dit, les gens du
10% de la population.
Et les expatriés qui vivent dans deux mondes complètement séparés. Et dans des mondes fous, parce que il s'agit de faire des temples de la consommation, donc ouais, immenses malls, des temples des loisirs, et on peut s'interroger sur le sens.
Et on pourrait croire que ce pays est un pays arabe, le pays des libertés, comme ça, le modèle arabe des libertés, le modèle de l'ouverture, presque épicurien même, et en fait pas du tout, c'est même l'inverse, le nationalisme est très fort et on flirte avec l'esclavage, avec ces étrangers qui viennent d'Asie, qui font la main d'œuvre de Dubaï, on leur confisque leurs passeports, on les exploite, ça aussi c'est terrifiant, et personne ne fait rien, en tout cas ils ont la légitimité dans leur pays de faire ce qu'ils veulent.
pour moi, en fait, c'est le miroir grossissant de tous les travers de ce siècle, quoi. Enfin, c'est un concentré, effectivement, de l'esclavage moderne, de la consommation comme seule occupation, de l'argent roi, etc., etc.
Pour avoir les libraires qui ont lu votre revue 6 mois, Marie-Pierre Subtil, Mathieu Colombe pour la France, qu'en pensez-vous?
Eh bien, moi, alors d'abord, je soutiens aussi au sein de ma librairie cette revue, ouais. Parce que je trouve son principe très original, en fait. 6 mois, c'est vraiment un instantané de la grande et de la petite actualité mondiale. C'est fait par des photojournalistes, les propos sont intéressants, souvent percutants, et soulignent la plupart du temps les grandes différences sociales de la planète, au global. Et c'est surtout une approche du journalisme de terrain qui est vraiment novatrice, et très orientée sur le visuel, et ça rafraîchit vraiment énormément ce secteur-là.
Exactement. Annick Dor pour la Belgique, êtes-vous d'accord? Oui, vous êtes d'accord. Merci, ouais. Annick. Allez-y, le dictateur.
Oui, complètement d'accord. Mais c'est vrai que c'est une revue qui est vraiment très très bien faite et les photos sont parlantes. Et puis après chaque photo reportage, c'est vrai qu'il y a à chaque fois un éclairage et des conseils de lecture pour aller plus loin, donc pour en savoir plus. Donc c'est vraiment efficace et captivant. Et puis moi j'ai été aussi frappée, comme vous Emmanuel, par la beauté des photos crépusculaires de Lagos. Hein. Elles sont absolument magnifiques, même si bien sûr elles sont le reflet d'une misère sans nom. Et puis incroyable aussi, c'est cette photo au Laos, cette fois, d'un centre commercial flambant neuf, absolument désert. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas qu'en Belgique qu'on se lance parfois comme ça dans de grands travaux inutiles.
Les travaux inutiles de Laos. On entend derrière nous justement l'ambiance de cette ville à Laos, Vientiane, qui justement est un peu le cœur de la démocratisation du consumérisme, de toute la société de consommation occidentale au Laos, qui est fascinée par le luxe et les apparences. Et la culture occidentale s'installe. Marie-Pierre Subtil.
Oui, le Laos est un petit pays qui est encore communiste, où tous les cadres vont se former dans les écoles du parti au Vietnam ou en Chine. Et néanmoins, toutes les grandes multinationales sont là. On voit une image incroyable d'une jolie jeune fille, hôtesse thaïlandaise, qui travaille pour Unilever et qui essaie de vendre à une paysanne une crème pour qu'elle puisse se blanchir la peau.
Ouais.
Voilà, donc on est dans cette folie des multinationales, de l'emprise de l'argent. On voit des jeunes couples qui achètent des Rolls-Royce.
C'est la perte d'identité, ça, en fait. Hein. Alors, ça fait penser au livre de Daniela Ferrière de Très Loin, en fait. Hein. Mais ça fait écho, comme ça, à l'assimilation contre nature combattue par Césaire, la mondialisation de la consommation, qui sont les nouvelles formes de colonialisme.
Oui, tout à fait.
Ce qui ressemble à mon livre, c'est surtout le plaisir qu'on prend à feuilleter la revue, à plonger dans des univers, à changer de personnage et qui raconte un seul récit, finalement, exact. Celui de notre siècle débutant.
Ouais. Alors là, merci beaucoup, Daniela Ferrière, je suis très honorée.
Merci beaucoup Marie-Pierre Subtil. La revue 6 mois numéro 18, printemps-été 2018, est parue en librairie. C'est la meilleure revue, je l'ai déjà dit, et la référence absolue.
Qu'est-ce que vous venez de dire
en photoreportage, la meilleure revue.
Oui.
Bon, merci beaucoup, c'était un grand plaisir de vous avoir tous sur ce plateau. Merci à vous.
Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici le chanteur Malik Djoudi avec un extrait de cinéma.
Je t'aime à volonté.
Malik Djoudi Cinéma, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Rémi Sistiaga à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouet en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. Merci Dany Laferrière, merci Marie-Pierre Subtil, Jean-Marie Gustave Leclésio. À bientôt Dany, je l'espère, en tant que chroniqueur.
Oui, sûrement, de luxe. De luxe. Si
la semaine prochaine, le chanteur Kali sera avec nous pour son premier roman. Bonne semaine, bon week-end.